Bonsoir. Bonsoir à tous. Merci pour votre participation à la conférence téléphonique d'Alten relative à l'activité du premier semestre 2023. J'espère que vous avez tous reçu le communiqué de presse qui a été diffusé il y a quelques minutes. Donc vous pourrez y trouver les chiffres que nous avons publiés ce soir. Comme vous avez pu le remarquer, si vous avez pris le temps de le lire, et surtout si vous avez eu le temps de le lire, Alten a réalisé une croissance satisfaisante ce semestre, conforme à ce que nous avions anticipé. Le chiffre d'affaires du groupe s'est établi à 2,48 milliards d'euros, en hausse de 12,2% par rapport à l'an passé. Il était de 1,826 milliards d'euros. En France, l'activité a progressé de 9,4% et en hors de France, de 13,5%. À données constantes, périmètre échange, l'activité a progressé de 11,4%, soit plus 9,4% en France et plus 12,5% hors de France. Au second trimestre, le rythme de croissance a ralenti, sans surprise, à 8,7%, et de 6,7% en France et de 9,7% hors de France. À données constantes, le rythme de croissance est à peu près identique, puisqu'il est de 8,6% au niveau du groupe, 6,7% en France et 9,7% hors de France. Le second trimestre a été pénalisé, je tire votre attention là-dessus, par 2 jours ouvrés de moins en France par rapport au second trimestre 2022, alors que l'international n'a été pénalisé que de 0,4 jours. Au total, le second trimestre est pénalisé en moyenne de 1 jour par rapport à 2022. Donc, le taux d'activité du deuxième trimestre est resté satisfaisant. Il est redevenu normatif, comme d'ailleurs celui du premier trimestre. Il s'est établi au deuxième trimestre à 91,9%. Il était pour mémoire de 92,9% en 2022. Ce qui fait que sur le premier semestre, le taux d'activité du groupe s'établit à 91,8% versus 92,7% au premier semestre 2022, soit un recul de 0,9%. On rappelle qu'en 2022, nous avions indiqué que les taux d'activité étaient anormalement élevés, puisque nous étions encore dans la période de rattrapage post-Covid. Le taux d'activité qui est à 91,9, le taux d'activité, comme vous le savez, normatif, puisque Alten oscille entre 91,8 et 92,2. Ce n'est pas une science exacte, mais c'est un taux qui est piloté à la semaine et qui correspond au taux que nous jugeons satisfaisant pour l'activité du groupe. Après cession de C-Prime fin 2022, le groupe comptait donc 53 650 collaborateurs à la fin du mois de décembre pour 47 240 ingénieurs. Fin juin, nous sommes 57 400, dont 50 550 ingénieurs répartis de la façon suivante, 11 550 en France et 39 000 hors de France. Sur le premier semestre, les effectifs ingénieurs ont donc progressé de 3 310 personnes, dont 2 626 de façon organique, 450 en France et 2 176 hors de France. Les acquisitions ont donc représenté la différence, c'est-à-dire 680 ingénieurs. Alors, si on regarde maintenant l'activité par zone géographique. Donc, cette analyse illustre le fait qu'hormis au UK et en Italie, les chiffres du deuxième trimestre traduisent un ralentissement de la croissance partout dans le monde, ce qui est tout à fait normal, puisque les taux de croissance ne peuvent pas être indéfiniment à 15%. Les budgets des clients ne sont pas extensibles à l'infini et la capacité de croissance est donc directement liée à l'extension des budgets clients pour l'essentiel ou à l'extension du taux d'outsourcing Mais nous avions déjà anticipé ce ralentissement du taux de croissance dès la fin de l'année dernière. Puis d'ailleurs, on était assez surpris que ce ralentissement du taux de croissance n'intervienne pas avant. Alors, en France, malgré un effet de base défavorable et deux jours ouvrés de moins que l'an passé, l'activité a progressé de 6,7% au deuxième trimestre, soit 9,9% si on devait retraiter l'effet jour ouvré. Au premier semestre, en France, l'activité a progressé de 9,4%, soit 10,4% retraité de l'effet d'un jour ouvré de moins sur le périmètre français. L'activité est restée dynamique dans l'automobile, qui croît toujours 25%, dans la défense et sécurité, plus 20%, et dans l'aéronautique civile, où la croissance est toujours forte puisqu'elle est de près de 30%. En Europe, hors de France, l'activité a cru de façon satisfaisante à près de 16%, même si la Scandinavie et l'Allemagne ont marqué le pas au second trimestre. Un rapide tour d'Europe. En zone ibérique, l'activité a progressé de 17%. Tous les secteurs sont en forte croissance, même le secteur banque-finance. En Allemagne, le ralentissement du second trimestre est amplifié par un effet jour ouvré qui a représenté 2,6%, soit une croissance pro forma de 9,2% versus les 6,6% publiés sur ce second trimestre. Sur le semestre, la croissance est de 12,2%. Il n'y a pas d'effet JO au global sur le semestre en Allemagne. La croissance de l'Allemagne a été fortement ralentie au second trimestre par une stabilisation progressive de l'activité dans le secteur automobile, qui croît encore de 9% par rapport à 2022. Je vous rappelle que la croissance dans l'auto a été extrêmement forte en Allemagne ces deux dernières années et qu'il n'est donc pas illogique que les budgets finissent par se stabiliser. Elle a été également ralentie par une décélération dans l'aéronautique, qui croît néanmoins encore de 20%, ces deux secteurs représentant, comme vous le savez, 70% du chiffre d'affaires en Allemagne. Au UK, la croissance est toujours soutenue, stable à 16,3% malgré un jour ouvré de moins, je crois que c'était le jour de Charles III, principalement du fait de l'aéronautique civile et de l'automobile. En Italie, la croissance se maintient toujours à plus de 25%. Tous les secteurs sont en progression, notamment le secteur finance tertiaire, télécom, auto et défense et sécurité. Au Benelux, la croissance est de 15%, à nouveau homogène entre les Pays-Bas et la Belgique. Aux Pays-Bas, sont les comptes auto, électronique, semi, énergie et équipements industriels qui ont tiré la croissance. En Belgique, l'auto, ferro, mais surtout la pharmacie, qui a bien rebondi et qui sont en hausse sensible. En Scandinavie, même cause, même effet, c'est comme en Allemagne, la stabilisation progressive de l'activité dans les secteurs auto et poids lourds qui explique le ralentissement constaté au second trimestre. En Europe de l'Est, la croissance est restée satisfaisante, à 27%, même si elle a ralenti également sur Q2. La Pologne, qui représente 65% de la zone, a cru de plus de 30%. Quant à la Roumanie, donc 35% de la zone, l'activité a cru de plus de 20% grâce au secteur auto et finances tertiaires. En Amérique du Nord, l'activité à périmètre constant a cru de 7%. Aux US, comme vous savez, ça représente les trois quarts de la zone Nord-Amérique, le ralentissement de la croissance qu'on avait constaté au Q1 s'est confirmé au Q2 sans être préoccupant. Il est principalement dû au secteur automobile où les budgets se stabilisent également et à beaucoup de fins de projet dans le domaine de l'oil and gas. Au Canada, la croissance a ralenti également, principalement du fait d'un effet de base très défavorable dans les secteurs aérospatial et banque finance qui à eux deux représentent plus de la moitié du chiffre d'affaires. Enfin, en zone Asie-Pacifique, la croissance avait déjà ralenti à partir du Q4 2022. Elle est de 6% ce semestre. J'attire votre attention sur un point que je ne crois pas vous avoir commenté au premier trimestre. La zone Asie-Pacifique rassemble un certain nombre de pays, dont Singapour, qui représentait en 2022 12% de la zone APAC. L'activité à Singapour a très fortement reculé cette année, du fait d'énormément de fins de projet dans l'oil and gas, puisque à Singapour, il y avait une plateforme qui desservait les zones essentiellement au Moyen-Orient. Et l'activité banque-finance a marqué également un fort recul, un gros projet s'étant arrêté localement. Donc, notre activité à Singapour est en recul des deux tiers ce semestre, ce qui a donc obéré très fortement la croissance de la zone. Donc, en fait, il faudrait lire la croissance de la façon suivante et la retraitée de Singapour pour comprendre la dynamique sur la zone APAC qui, hors Singapour, est de 18% et pas de 6%. Singapour, donc, qui représentait 12% de la zone, en représente plus que 4%. Et donc représente maintenant localement une activité assez marginale. La Chine, donc, qui représente 35% de la zone APAC, est à 7% de croissance, pénalisée par une décroissance dans le secteur des télécoms, qui représente une part assez significative du chiffre d'affaires local, alors que l'automobile, qui représente plus de 30% du chiffre d'affaires en Chine, est toujours en croissance de plus de 35%. L'Inde, 31% du chiffre d'affaires de la zone, évidemment pour des marchés locaux, est en croissance de 15% grâce au compte auto-industrie tertiaire. Le Japon, qui grossit régulièrement et qui représente aujourd'hui 11% de la zone APAC, a accéléré sa croissance de plus de 30% grâce au secteur tertiaire et électronique. Et enfin, la Corée du Sud, 10% de la zone, qui croît également, comme le Japon, assez rapidement, est en croissance de plus de 35% grâce aux comptes auto et électronique semi-conducteurs. Donc une croissance qui est restée satisfaisante dans la plupart des zones géographiques où nous sommes présents. À l'identique, donc, la quasi-totalité des secteurs d'activité sont en croissance, même si le rythme de croissance diffère. L'auto, donc, comme je vous l'ai indiqué à l'occasion du tour du monde, a ralenti son rythme de croissance, mais rythme qui reste quand même soutenu dans certaines zones géographiques. Donc globalement, le secteur auto a progressé de près de 20% encore ce semestre. La croissance est essentiellement réalisée chez les constructeurs, puisqu'elle est en croissance de plus de 25% au global. Le seul constructeur qui marque le pas, c'est General Motors. En revanche, le ralentissement du rythme de croissance est surtout confirmé chez les équipementiers dont le rythme de croissance est inférieur à 10%. Le ferro, 2,6% du chiffre d'affaires, qui était stable en 2022, a recommencé à croître cette année, puisqu'il est en croissance de plus de 10%. Dans l'aérospace, l'aéronautique civile est toujours très dynamique. La progression du secteur aérospace est de 30%. Dans l'aéronautique civile, une activité qui est drivée par les constructeurs, Airbus Aero, hélicoptères Dassault, et chez les équipementiers, par les comptes Safran, Rolls-Royce, Thales, etc., et qui continuent de croître assez fortement. Dans le domaine des activités défense, sécurité et navale, la croissance est toujours forte, de l'ordre de 25%, principalement grâce au secteur défense. L'énergie, 7,5% du chiffre d'affaires, est en recul de 8% en raison des activités oil and gas qui représentent 2,3% du chiffre d'affaires, donc en baisse constante depuis des années. Je vous rappelle qu'en 2015, ça représentait près de 9% du chiffre d'affaires. Activité de l'oil and gas qui continue à se replier, puisque en fait, la baisse de l'activité year on year est de l'ordre de 30%. Bon. L'activité a été à la fois pénalisée par des fins de projets importants en Afrique, aux US et dans le Golfe, c'est ce que je vous expliquais sur Singapour, et également par le retrait de la Russie au second semestre 2022. En revanche, tous les autres secteurs, nucléaire, équipement pour l'énergie et chimie, globalement progressent de 10%. Les sciences de la vie, grâce au secteur de la pharmacie, sont en croissance de 5%. Quant au secteur des équipements industriels et de l'électronique et semi-conducteurs, la croissance est stable à 15% de façon homogène. Les télécoms sont en croissance faible, 2% de croissance, Télécom qui depuis des années sont en croissance, mais très mesurée. Croissance qui est plutôt réalisée cette fois-ci avec les opérateurs, les budgets s'étant stabilisés, voire ayant régressé dans le domaine des équipements 5G. La finance, 9,3% du chiffre d'affaires, a ralenti au second semestre, dans le domaine de la banque plutôt, parce que le domaine de l'assurance se tient bien. Le secteur bancaire croît encore de 5%, alors que la croissance est de plus de 15% dans le secteur des assurances. Une activité qui progresse dans le secteur bancaire, beaucoup en Europe du Sud et au Canada, mais qui est en recul en France du fait de la réduction des budgets. Quant au secteur du retail, services et secteur public, il croît toujours de 7%, mais a globalement ralenti également au second trimestre. Vous voyez donc que tous les secteurs d'activité sont en forte croissance ou en croissance, à l'exception de l'oil and gas. Certains d'entre eux ont évidemment ralenti au second semestre, mais l'activité reste satisfaisante. Côté croissance externe et M&A, Alten a acquis une société au premier trimestre dans les activités de tests logiciels dont nous avions parlé lors de la précédente communication. Chiffre d'affaires de 18 millions d'euros et 185 consultants. Au second trimestre, nous avons acquis une société présente en Inde aux USA et avec une toute petite présence en Allemagne. Petite société, 500 consultants, chiffre d'affaires de 9 millions d'euros. Une société en Pologne qui est plutôt dans les services télécom et services IT. Un chiffre d'affaires de 19 millions d'euros pour 350 consultants, dont la moitié sont des externes. Il arrive souvent dans le domaine de l'IT. Et enfin, très récemment, une société qui est présente en Espagne avec une antenne en Allemagne, une société qui fait 7 millions d'euros de chiffre d'affaires et 130 consultants, qui est spécialisée dans le domaine de l'ingénierie aéronautique et qui évidemment travaille dans l'écosystème Airbus. Voilà, d'autres sociétés sont en cours de due deal, hein, c'est le business comme d'habitude. On annoncera peut-être des acquisitions complémentaires au mois de septembre, enfin au mois d'octobre plutôt, et pourquoi pas d'ici la fin de l'année. Pour 2023, donc l'activité s'est comportée correctement au premier semestre. Le ralentissement qu'on avait largement anticipé est tout à fait normal et il s'est avéré conforme aux anticipations. Au second semestre, on attend donc un taux de croissance qui logiquement devrait continuer à ralentir, à la fois en raison de l'effet de masse de comparaison et puis d'une macroéconomie qui quand même est globalement plus molle. Néanmoins, on s'attend à réaliser une croissance organique satisfaisante sur l'année d'environ 10% en 2023. On en saura peut-être un petit peu plus au moment de la réunion analyste. Mais on reste confiant sur le second semestre. Voilà, écoutez, je vous propose, madame, si vous voulez, d'ouvrir la conférence et de permettre aux participants de poser leurs questions.
Tout à fait. Nous avons une question de monsieur Boudaravapu Aditya. C'est à vous.
Hi, can you hear me?
Bonjour, est-ce que vous m'entendez? Oui, tout à fait. Oui, merci beaucoup de prendre ma question. Alors, tout d'abord, en ce qui concerne la croissance organique, vous avez dit que le ralentissement était prévu. Pourriez-vous peut-être nous dire comment vous voyez la croissance pendant le deuxième semestre, et notamment trimestre 3 comparé à trimestre 4. Et pourriez-vous peut-être commenter également sur le pipeline pétrolier et les clients qui veulent investir? Pensez-vous qu'il y a un certain nombre de projets à l'arrêt ou qui devraient s'arrêter? Et puis, pourriez-vous peut-être également commenter sur le fait que, étant donné la situation, qu'en est-il des marges, des niveaux de marge pour le premier semestre de cette année et de la situation globale? Alors, croissance pour le deuxième semestre a été à 18% de croissance organique. On s'attend que pour H2, on se retrouve avec des taux de croissance similaires. mais on ne s'attend pas à une décélération plus forte de la croissance organique à ce jour. Tout ceci, bien sûr, dépendra de ce qui se passera en septembre et octobre, parce que ce sont des mois clés pour notre activité. Nous avons un certain nombre de projets en cours, et ces projets auront un impact sur le taux d'activité. Et puis, bien sûr, les niveaux de recrutement, car comme vous le savez, nous recrutons des ingénieurs quand nous pensons, comme nous sommes confiants dans le nombre des nouveaux projets à lancer. Quelle était votre autre question, s'il vous plaît? La deuxième question, c'était concernant le pipeline, les pipelines, les différents projets en cours. On voit qu'il y a des projets qui, des clients qui repoussent les projets ou réduisent les budgets. Non, écoutez, non. On ne voit pas que les clients repoussent les projets ou alors on n'est pas au courant. Mais nous avons des clients qui parfois effectivement lancent des nouveaux projets et qui rencontrent un certain nombre de retards pour différentes raisons. Mais le cycle de la prise de décision demeure relativement stable. Les projets ne sont pas plus longs que prévu. Maintenant, ce qui est sûr, c'est que nous avons expérimenté pendant 2 années une très forte croissance organique parce que les clients dans l'industrie sont obligés d'investir à cause de la transition, mais on s'attend que un certain nombre de projets seront externalisés, donc ce sont des potentiels projets pour nous, la croissance pour nous. Mais ce marché devrait se normaliser avec le temps et l'on devrait revenir à des taux de croissance classiques, normaux. Donc, il n'est pas nécessaire de s'inquiéter. Nous revenons progressivement à la normale avec un atterrissage en douceur. Ma dernière question, c'était une question concernant les marges. Étant donné les taux de croissance en précédent, qu'en est-il des niveaux de marge? Alors, cette réunion n'est pas une réunion vraiment destinée à parler des marges, mais je peux vous donner une idée. Pour H1, on a annoncé une marge à 11%, donc c'est un niveau assez normal pour Alten. Vous le savez, pour nous, c'est assez classique. On a eu un taux de marge qui est autour de 9, donc un peu plus, un peu moins. Si on compare l'an passé à l'année d'avant, alors le taux d'activité était plus bas d'un point. Et donc, ce sont des ratios donc assez classiques. Les gens sont familiers avec ces ratios. On a noté le même nombre de jours de travail. Mais il y a des pays où les revenus par tête sont très élevés, comme la France, l'Allemagne ou le Royaume-Uni. Et à l'opposé, effectivement, cela pourrait avoir un impact. Nous avons également décidé d'investir dans notre division technologique afin de renforcer l'équipe commerciale pour accompagner la croissance. Mais nous en parlerons en septembre. Cela dit, la marge pour H1 sera plus basse en 2023 comparée à 2022.
Nous avons maintenant une question. Je ne sais pas si monsieur avait terminé.
I think so.
I'm done, thank
Je you. Pense que oui. Oui, merci.
Terminé.
Une question de monsieur Grégory Ramirez.
Oui, bonsoir Bruno, tu m'entends?
Bonsoir, très bien Grégory.
Ouais, c'est bon. Je suis pas sûr si j'étais en mute. Oui, concernant en fait le net staff hiring, donc si je fais le bon calcul, hein, je crois qu'il n'y a pas eu d'acquisition sur le T2, on est à 1050, hein, c'est ça? À peu près sur les ingénieurs.
Net staff hiring, non, sur le T2, pardon.
Oui.
On est à moins que ça. On est à 860.
Ah, 860. OK. Oui, donc on revient vers des niveaux plus normatifs. Et dans cette optique, est-ce que tu penses que, Oui, pardon.
Non, effectivement, je voulais juste dire que le chiffre de 1050 est correct, mais il y a eu une société qu'on a consolidée au 1er avril, donc qui représente 190 personnes. Et juste pour dire que le chiffre était correct, mais il se split entre 190 qui proviennent d'une acquisition qui est rentrée au 1er avril et 860 qui proviennent effectivement du net staff hiring.
Voilà, oui, non, mais c'est bon. Donc, effectivement, moi, j'étais sur un rythme d'à peu près 800 par trimestre au-delà du T2. Est-ce que tu penses qu'un rythme d'embauche nette, pour l'instant, si l'activité, la croissance reste à peu près au même niveau que la croissance organique reste au même niveau que celle du T2,
on va revenir vers des niveaux de, je pense, 1000 par trimestre, mais en fait, ça dépend essentiellement de l'activité, du chiffre d'affaires, de l'activité client, mais effectivement, c'est cohérent. Mm-hmm. En fait, ce qui s'est passé au T2, c'est assez inhabituel pour le souligner, c'est que on a fait en net zéro croissance en effectif en France. Je ne veux pas dire que l'activité va mal, hein, mais on a fait la totalité de la croissance du net staff hiring sur l'international. Alors pourquoi on n'en a pas fait en net en France? Parce qu'en fait, la croissance dans certains secteurs, qui sont les secteurs auto, aéro, notamment, mais on va dire industrie au sens large, mais quand même drivée plutôt par ces deux secteurs, même s'il y a aussi le ferro, les équipements industriels et autres, a été absorbé en partie par une décroissance dans le secteur de la banque-finance, où clairement, on a une tendance de marché qui est compliquée en France. Aussi parce que dans les secteurs qui sont pourvoyeurs de nouveaux projets, beaucoup de nouveaux projets démarrent en fait en offshore ou en near-shore, notamment dans le secteur auto, pour des questions de coûts et de productivité. Voilà. Et donc, en fait, la France, c'est le résultat de plus et de moins qui se compensent et qui font zéro à l'arrivée. Alors qu'à l'international, on a continué à croître. Pas dans toutes les géographies, mais on a globalement continué à croître.
Et sinon, est-ce que tu notes là sur juillet un accroissement, on va dire, de l'effet saisonnier de fin de projet, peut-être un peu plus que d'habitude?
Non, pas plus que d'habitude. Non, et d'ailleurs, pour le second semestre, alors évidemment, j'ai communiqué, le taux de croissance va continuer à décélérer. On ne parle pas d'une baisse d'activité, on parle d'une décélération du taux de croissance, mais ce qui est aussi anticipé, qui était dans nos budgets, ce qui est anticipé par les opérationnels depuis longtemps. Il n'y a pas de, il n'y a pas de warning particulier. Évidemment, la macro atterrit aussi, hein. Il faut regarder les chiffres des taux de croissance européens ou, et français, mais c'est tout à fait normal.
Mmh. OK. Et puis, dernière question, sur les trois acquisitions là, que tu viens d'annoncer ce soir, quelles sont les marges ?
Au global, un peu inférieure à celle du groupe, mais ce sont des petites sociétés, c'est-à-dire que ce sont des sociétés qui sont insuffisamment staffées sur le plan commercial et qui, sur le plan de l'organisation interne, outils, finances, etc., sont clairement sous-équipées. Donc, en marge nominale, c'est-à-dire quand on fait les due deals, qu'on prend les chiffres et qu'on les analyse, ça donne au global une marge un peu inférieure à celle du groupe, mais c'est, leur marge normative est plus faible.
D'accord. Merci beaucoup, Bruno.
D'ailleurs, le M&A de l'an dernier et de cette année, je ne sais pas si je l'ai évoqué parce que la question a été posée, mais sur la marge, mais ça pèse aussi et ça va peser sur les marges du premier semestre aussi. C'est dur de trouver des sociétés avec des niveaux de rentabilité élevés dans notre métier. Ça peut se trouver. Le problème, c'est qu'en général, elles coûtent très cher, les multiples sont très élevés. Et souvent, malheureusement, quand on les regarde, on les analyse de près, on sait bien que ces marges-là sont des marges qui ne sont pas pérennes dans le temps. Donc, ça n'explique pas pourquoi on achète des boîtes qui font à peu près, qui sont entre 5 et 10 en général. Mais il y a des boîtes qu'on a vu passer, notamment une acquisition qu'on avait regardée sur les US et l'Inde, j'en avais parlé au premier semestre. Qui est parti à un prix stratosphérique. Donc effectivement, on va pas sur ce genre de deal parce que payer 15 ou 16 fois les bits, on n'arrive pas à s'y résoudre. Ça fait pas partie de la culture du groupe Alten et ce serait très dilutif ce serait relutif en termes de marge, mais en termes de multiples payés, c'est disproportionné avec notre value.
Merci.
Nous avons maintenant une question de Monsieur Laurent Dor.
Ça devrait être bon là, c'est bon?
Oui, on t'entend, Laurent.
Ah, ça y est, il fallait faire une petite manip avant. En fait, j'avais plusieurs questions. Donc, question classique, comme à chaque fois, si tu pourrais nous donner un petit aperçu, l'attrition, l'évolution des salaires, des prix, enfin, le momentum du marché. Ma deuxième question, c'est pour revenir en fait sur la croissance attendue au S2 et le phasing de la décélération, parce que tu étais à 14,5 au de croissance organique au T1. Si j'ai bien compris, en effet, à jour ouvré constant, ton T2, tu nous as donné la France, il est à peu près à 10, c'est ça? En organique.
Et c'est pour la France, oui. Que sur la France.
Mais sur le groupe, si tu avais un T2...
Sur le groupe, en fait, on a eu un jour ouvré de moins au T2 versus le T2 de l'an passé. On n'a pas refait les calculs au niveau groupe, mais évidemment, ça a pesé sur la croissance de l'ordre de peut-être 1,3-1,4%. Mais on avait eu, à contrario, en moyenne, un jour ouvré de plus au Q1. Donc l'un dans l'autre, ça se compense. Et donc sur le semestre, on est à ISO par rapport à l'an passé.
Oui, mais moi, j'ai expliqué
ça. Pardon, excuse-moi.
Oui, parce que j'essaie de voir le ralentissement trimestre à trimestre, en fait. Parce que donc, en facial, tu vois. Vas-y, vas-y.
Facial, c'est important, mais oui. Mais si on fait en facial, on devrait faire 13, 13 et 10, quoi, à peu près. Et si on devait normaliser, si
Ok,
on devait
donc.
comparer.
Ouais, j'ai compris. Et en fait, sur le S2, t'attends encore, grosso modo, 1,5 point de moins de momentum par rapport à l'année
Voilà.
dernière. C'est un peu comme ça que tu as construit
C'est ça.
le.
Voilà, l'année prochaine, enfin, au S2, on va perdre exactement par rapport à l'an dernier, en moyenne, 1,3 jours. Et
Sur
donc,
6 mois, hein.
effectivement,
Ça, cette fois-ci, c'est sur 6 mois, c'est ça.
oui, exactement. Voilà, ce qui fait que globalement, sur le S2, on attend une marge, une croissance qui forcément sera plus faible. Bon, ça, c'est parce que la base de comparaison étant ce qu'elle est, et que la croissance séquentielle tendant à diminuer aussi, ça finit par le double effet se retrouve dans le taux de croissance qui continuera à baisser. Donc, on a publié une croissance organique sur S1 qui sera forcément supérieure à la croissance organique qu'on publiera sur S2.
Oui,
Le
évidemment, mais moi
tout,
je voulais avoir un confort en fait sur ton UE.
voilà. Globalement, on devrait être à 10 ou pas loin des 10, je pense, au second semestre. Sauf à ce que la rentrée soit vraiment pas bonne.
Oui, donc en.
Ce qui est pas la. Ce n'est pas le ressenti des gens qui sont sur le terrain.
Ouais, donc en fait, entre le T2 et le H2, dans ce que tu ressens, t'attends pas à avoir une vraie nouvelle marche d'escalier à la baisse sur ton
C'est
momentum.
ça, exactement.
Et ça, c'est des remontées de terrain qui viennent de pratiquement toutes les zones géographiques.
Bah forcément, oui.
Alors, je te demande ça parce que tu as des sociétés qui, plus dans l'IT, hein, classique, pas R&D, qui, elles, ont pris des hypothèses de S2 à ce stade moins élevées que ce qu'elles ont vu sur le T2. Tu vois? Sinon, je te laisse répondre à la première question et puis j'ai encore un ou deux points à voir, tu sais, sur l'attrition salaire-prix.
L'attrition des, sur le taux de turnover, bon, il reste élevé. On a beaucoup de débauchages cette fois-ci, clients, énormément. On doit être aux alentours de toujours 27, 28. C'est pas, on n'est plus sur les taux de turnover qu'on a connus en début d'année dernière. Sur le ratio salaire-prix, c'est une question à laquelle, vous l'avez déjà répondu. Aujourd'hui, c'est compliqué de répondre parce que il y a des effets de mix qui sont géographiques, des effets de mix d'offres, de seniorité des consultants. Il y a du work package. Enfin, ouais, on n'est plus depuis longtemps dans une logique où on avait des grilles de tarifs avec des grilles de tarifs. Une activité qui était drivée essentiellement par des grilles de tarifs qui pouvaient, sur un périmètre qui était beaucoup plus restreint, se comparer avec des salaires. Ce qu'on voit. La seule chose qu'on arrive à mesurer, parce que le fait d'avoir des augmentations de salaire je dis n'importe quoi, enfin pas n'importe quoi, mais par exemple en Pologne de 13 ou 14% avec des augmentations de tarifs de 16 ou 17, encore faut-il que ce soit homogène sur l'ensemble des clients, ça n'est pas nécessairement. Il y a toujours une timing différence entre le moment où on augmente les salaires et le moment où on arrive à faire passer des augmentations de tarifs. Là, par exemple, on a eu des augmentations de tarifs dont certaines vont intervenir en avril ou sont intervenues en avril, puisque bon, les acheteurs sont, s'ils peuvent gratter 3 mois, ils grattent 3 mois, et puis d'autres qui vont intervenir au second semestre. Alors même que ça, c'est dans certains pays, il y a d'autres, chez certains clients, il y a des clients où ils nous opposent les négociations triannuelles et donc ils nous disent on reparlera tarif au moment du nouveau référencement. Bon. Donc il y a les grilles commerciales, voilà ce que je veux dire. Et aujourd'hui, on n'est plus capable de faire une synthèse de l'évolution des grilles commerciales, parce que là, on est sur des grilles de tarifs, de compétences, mais ensuite tout ça est quand même pas mal, on va dire. Obscurci par les activités de work package qui rendent les choses moins directement lisibles. Bon. Et sur les salaires, c'est pareil, il y a des effets de noria de turnover qui font qu'en fait, on peut avoir une visibilité sur l'évolution des grilles de rémunération qui n'augmentent pas dans les mêmes proportions dans toutes les géographies, forcément. Et puis ensuite, il y a la pyramide des âges et donc le mix consultant qui rentre en ligne de compte. Donc, à l'arrivée, ce qu'on regarde, c'est l'évolution, en fait, du ratio prix-salaire et donc, en fait, de la marge dégagée les projets, tout projet confondu et toute géographie confondue, et la marge directement liée au ratio prix-salaire. Parce qu'évidemment, derrière, il y a d'autres éléments qui rentrent dans la marge du groupe. Il y a le coût des locaux, parce qu'on a beaucoup de projets en work package dans nos locaux, le coût de l'IT, tout ce qui est environnement, etc. Il semble, on est en train de faire des analyses, là, parce qu'on est en train de clôturer S1, mais il semble que le ratio prix-salaire sur S1, globalement, ne s'est pas détérioré. Plutôt une bonne nouvelle si elle devait se confirmer, parce que j'avais indiqué qu'on attendait une nouvelle détérioration du ratio prix-salaire qui était de 80 bips l'an dernier, dont on pensait qu'on reprendrait 30 ou 40 bips cette année. Ça ne semble pas être le cas, mais je vous confirmerai tout ça au mois de septembre.
Ok, merci. Alors, j'ai encore deux points. Alors, juste une clarification, comme tu as évoqué le sujet des marges du H1, on peut comprendre qu'en fait, en termes de saisonnalité de marge, on assiste à un retour à la normale par rapport à ce qu'on avait l'habitude d'avoir il y a quelques années, c'est-à-dire une marge S2 bien supérieure à la marge S1.
Alors, elle ne sera pas bien supérieure parce que le différentiel de nombre de jours ouvrés reste faible. On a un jour d'écart entre S1 et S2. On va être pénalisé en plus par rapport à l'an dernier par un jour ouvré de moins que l'an passé. Parce que l'an dernier, on avait fait en moyenne 124-126. Cette année, on fait 124-125. Bon. Mais effectivement, Laurent a raison, il y aura un effet de saisonnalité avec une marge S2 qui est attendue supérieure à la marge S1.
Oui, parce que
on n'aura pas 3 points d'écart.
Oui, j'entends bien. Mais l'objectif reste d'avoir une marge à 10 plus. C'est ce que tu avais donné en début d'année.
En début d'année, on a dit qu'on aurait une marge, qu'on reviendrait vers une marge normative à 10.
Oui,
ça change pas. C'est-à-dire que là-dessus, on est à l'aise avec le fait que la marge normative du groupe est à 10. Est-ce qu'on sera à 10 sur toute l'année? On verra en fonction du second semestre.
D'accord. Et dernier point, à part Singapour, qui est le point faible de la publication, pour S2, quel est le point de focus du management sur lequel vous êtes particulièrement vigilant sur un pays ou une activité où il y a une moindre visibilité par rapport à l'ensemble du groupe?
Singapour, c'est un peu particulier.
En fait. Ouais.
C'est pas très gros. Mais en fait, j'en ai parlé parce que ça brouille la lisibilité de la dynamique à Pâques. Donc, c'était important de remettre en perspective les chiffres de l'activité à Pâques parce que la baisse forte de l'activité oil and gas, qui en partie était drivée de Singapour, pouvait amener à des mauvaises conclusions. Alors, laissons de côté ce sujet. Il n'y a pas de zone d'attention particulière, en fait. Il y a un sujet sur la finance en France, clairement. On a un recul dans l'activité banque-finance. Je ne sais pas si c'est le cas partout, mais clairement, on a des messages de nos clients, mais ça, je crois que je l'avais déjà commenté, qui annoncent des baisses des coupes dans leur budget IT. Bon. Et ça se voit clairement d'ailleurs sur les niveaux le nombre d'appels d'offres, les exigences de tarifs, de productivité, etc. Bon. Voilà. L'Allemagne, comme ça ralentit pas mal, c'est aussi un sujet parce que l'Allemagne a une structure de marge qui est compliquée. L'an dernier, on avait fait une bonne performance parce qu'on avait eu un taux d'activité très élevé en Allemagne et puis la demande était vraiment extrêmement forte. Cette année, l'Allemagne revient dans une logique plus normative également. Voilà. Donc, et puis, comme on grossit beaucoup partout, on fait des investissements aujourd'hui qui sont des investissements de structuration des directions techniques dans d'autres zones géographiques, qui sont des investissements dans les outils informatiques, à la fois qui sont liés à l'accélération d'un certain nombre de processus qu'on est en train de digitaliser. Et puis, on a changé le CRM, on a mis en place des nouveaux outils de pilotage de l'activité pour les managers, enfin voilà. Bon. Donc en fait, on est en train de préparer l'étape d'après.
Ok, merci. Il n'y
a pas de... Voilà, mais il n'y a pas de... Non, franchement, l'activité va pas mal et on n'a pas de point d'inquiétude plus que ça. Après, c'est le business comme tous les jours, c'est-à-dire qu'on a des clients, malgré les tensions sur les salaires, etc., qui continuent à demander de la productivité, voilà. Voilà. Mais ça, c'est notre métier, c'est gérer le business de telle façon qu'on arrive à croître et à être rentable en faisant de la croissance.
Ok, parfait, merci pour tout, bonne soirée et bonnes vacances.
Tant pis Laurent, bonne soirée, merci.
Nous avons maintenant une question de monsieur Déric Marcon.
Salut Bruno, j'avais trois petites questions si tu me le permets. La première, c'est sur l'oil and gas. J'arrive pas bien à comprendre si la situation en fait au Q2 versus Q1 s'est détériorée. Parce que quand je relis les maths du Q1, j'ai l'impression que finalement l'oil and gas était en décroissance de 30% au Q1, ça l'est encore au Q2. Ouais. Et j'arrive d'autant moins à réconcilier ces chiffres que, en revanche, l'énergie qui était en décroissance un peu au Q1, elle l'est beaucoup plus au Q2. Alors, tu vois, tu as l'impression que l'oil and gas pèse pas plus dans l'équation. Donc ça, c'est ma première question, puis je te poserai les autres à la suite.
Je ne sais pas trop quoi te répondre, Eric, parce que c'est vrai que l'oil and gas était... en décroissance, on a à peu près le même taux de décroissance qu'un Q2. Après, la croissance des autres secteurs est probablement plus faible au Q2 qu'elle ne l'était au Q1. Donc, en fait, l'impact de la décroissance de l'oil and gas, qui ne s'arrête pas en fait, hein, c'est-à-dire qu'aujourd'hui, on a encore des projets qui s'arrêtent au second semestre, a pesé plus sur le taux de décroissance de l'énergie ce trimestre qu'au précédent. C'est la seule explication, logique que je peux te faire.
Et ça veut dire que dans les autres composantes du secteur énergie, nucléaire, équipement et équipementier chimie, t'as plus
ça a moins cru que ça n'avait cru au premier trimestre, ça c'est sûr. D'accord. Notamment et de façon assez surprenante, le secteur du nucléaire. Où là, c'est pas une question de besoin, c'est une question de ressources.
Et donc là, tu as en tête le taux de croissance de Q1 et ce que tu as fait au Q2 ou on est trop granuleux, c'est trop granulaire pour que tu aies ça en tête.
Honnêtement, j'ai plus le taux de croissance
de Q1. Au Q1, c'était à plus 12 sur le nucléaire.
Ah non, là, on a beaucoup baissé. Si on était à plus 2 sur le nucléaire, là, on est à plus 3 sur le nucléaire.
D'accord.
Ah non, ça a beaucoup baissé, ouais.
Alors,
Et sur les équipements pour l'énergie, puisque je ne sais pas si tu avais noté les taux de croissance, je peux les retrouver, mais là, sur le S1, on est à 15%. Donc, ça a baissé aussi, puisqu'on devait être au-dessus de 20%, je pense. Donc, en fait, on a une baisse de la croissance dans les autres secteurs avec un oil and gas qui continue à baisser au même rythme.
Ça moins. OK. Très clair. Ma deuxième question, c'est un peu du même acabit. Tu vois, c'est sur Singapour, il faut bien comprendre. L'impact négatif au Q2, il est plus fort qu'au Q1, non? Parce que quand tu regardes les chiffres d'APAC, ouais. Pour les zones que tu mentionnais hors Singapour, tu n'as pas l'impression qu'il y a un gros ralentissement entre Q1 et Q2, et pourtant, tu as le taux de croissance de APAC qui vraiment chute là, pour le coup, assez fort entre Q1 et Q2. Donc, est-ce que tu peux quantifier, d'abord timer, est-ce que l'impact Singapour est plus Q2 ou Q1, et quel est le delta entre Q2 et Q1, combien ça coûte en chiffre d'affaires, en gros, si la situation avait été restée inchangée?
Alors, la réponse à la question, est-ce que je peux le faire ? La réponse est oui, forcément. Est-ce que je peux répondre comme ça ? Comme je n'ai pas toutes les bases de données dans la tête, je ne peux pas répondre. Mais si tu veux, je peux t'envoyer trois lignes sur le sujet.
Non, mais on parle de quoi ? Alors, comme tu disais, c'était un petit pays, mais c'est donc quand même plusieurs millions d'euros. Ce n'est pas non plus 100 000 euros, quoi.
Non, non, c'est pas 100 000 euros. Singapour, je peux te dire ce que ça représentait comme chiffre d'affaires au Q2. Singapour, je crois que de mémoire, ça doit représenter 4 millions quelque chose. Je vais te dire précisément, je prends mes notes.
C'était passé de 12 à 4. Donc c'est 8 points de...
Ça, c'est sur le semestre, mais c'est ça. Donc, sur Q2, par exemple, Singapour Q2, puis je suis à l'année dernière 9,8, cette année 2 millions. Et donc en fait, si on est passé de 12 à 4, ça veut dire que en fait, on a perdu beaucoup de chiffre d'affaires au Q2. On va trouver le Q1. Hein, mais...
Ouais, bah, je vais recalculer. En fait, donc 4% sur le H1 et avec 2 millions d'euros au Q2 2023. C'est ça?
Singapour, Q1 22, ça avait fait 8,9. Et on a fait 4,4 au Q1. Comme ça, ça t'a les chiffres de cette année. Et au Q2, ça avait fait 9,8. Et cette année, on a fait 2. Donc, on a effectivement un recul beaucoup plus fort au Q2 qu'au Q1 sur Singapour.
OK. Top. Et ma dernière question, c'est sur le nombre de jours facturables. Le chiffre que tu as mentionné quand tu as répondu à Laurent sur l'effet jours facturables S2 que tu quantifiais à 1,3 jours, ça me paraît en fait assez fort finalement si tu le compares à ce que tu as vécu au H1. Tu vois, où tu disais finalement c'était presque neutre sur le H1. Et on est bien d'accord qu'en fait, sur le H2, à part au Q3, où c'est un effet jour moins 1 en France, ce n'est pas censé. Donc, j'imagine que sur d'autres pays, il doit y avoir des swings de jours que je n'ai pas en tête. Ça me paraît beaucoup, en fait, 1,3 jours sur l'ensemble du semestre. Tu vois, si tu le compares à ne serait-ce que l'impact du Q2 ou du H1 2023.
Ce n'est pas compliqué. Les chiffres sont les suivants. Enfin, ce qu'on a, hein, mais en France, on perd un jour au Q3. Et on ne perd rien au Q4. À l'international, on perd un jour, un peu moins, mais enfin bon, je fais grâce des trois chiffres après la virgule, au Q3, et on repère 0,5 jours au Q4. Donc au global, c'est ça fait bien en moyenne sur le groupe, pondéré par évidemment. Le poids relatif de chaque zone, ça fait bien 1,3 à peu près de perte sur le S2. Mais après, ça renvoie à la réflexion que j'ai faite un peu plus haut, qui est que on raisonne globalement sur le nombre de jours, mais en fait, par zone géographique, les jours ne se valent pas en réalité. Donc, si on était vraiment puriste, il faudrait pondérer le nombre de jours ouvrés à la fois. Alors, c'est pondéré par le nombre de personnes, évidemment, parce que ce n'est pas une moyenne arithmétique, vous en doutez bien quand même, mais il faudrait aussi pondérer ça par l'effet revenu aujourd'hui. Et donc, on a bien, non, c'est logique, on a bien 1,3 jours de moins.
Oui, mais c'est parce que je n'avais pas en tête qu'à l'international, la situation était. Enfin, le nombre de jours facturables serait aussi en retrait par rapport au S2 2022. Je préfère d'aller plutôt le pattern de la France avec moins un jour sur. Tu vois, et comme tu le compares à quelque chose où. OK. Et ma dernière question, j'en rajoute une, c'est sur la France. Tu disais donc sur l'ensemble du groupe, pas de décélération en termes de croissance organique par rapport à ton point, à ton niveau du Q2. Et en même temps, si on fait un zoom sur la France, vu que tu es à zéro en asset acquiring sur Q2, est-ce qu'il n'y a quand même pas un risque que tu aies la fameuse marge d'escalier que mentionnait Laurent, c'est-à-dire que tu continues à avoir une croissance organique qui se compresse un peu sur Q3, Q4.
On a remis de la croissance sur Q3, Q4 en France. En croissance en effectif, évidemment. Donc, effectivement, mais on a réajusté les perspectives par rapport à la vision qu'on en avait il y a 3-4 mois, pour tenir compte justement du fait qu'on a loupé, entre guillemets, quelques centaines d'ingénieurs en France. Mais les forecasts Q3, Q4, établis à partir de ce que les opérationnels voient sur le terrain, qu'ensuite, évidemment, on analyse en détail, redonne de la croissance en effectif sur Q3 et Q4 en France.
En sachant que
on aura forcément en France une croissance organique qui sera au mieux équivalente à la croissance organique S1. Ça, c'est obligé. Mais on ne voit pas une croissance organique en France deux fois inférieure à la croissance S1, par exemple. Après, la réunion analyse, c'est fin septembre. On y verra plus clair à ce moment-là, j'espère. Mais en tout cas, ce n'est pas notre hypothèse. Pourtant, on n'est pas...
Donc, tu verrais toi, on essaye d'être... S2 en ligne avec S1, mais pas un Q3 qui descend en dessous de Q2 avant de pouvoir remonter au Q4. Tu vois, pas avec un Q3, Q4 très différent. C'est ça que j'essayais de comprendre, la dynamique. C'est vrai que ça fait un très bon niveau de recrutement sur le premier trimestre. Faut voir.
On ne voit pas ça. On voit... Q3, c'est compliqué de comparer Q3 à Q2. Enfin, on peut comparer en croissance organique year on year, mais c'est trimestre par trimestre, évidemment. Mais Q3, il y a les vacances, etc. Mais puis l'an dernier, en plus, on avait un jour de plus. Mais si on le retraite du jour d'écart, on ne voit pas un Q3 dégradé par rapport à un Q2 sur la croissance organique France. En tout cas, pas dans des proportions qui mériteraient d'être mentionnées. En clair, on n'est pas sur 5 points de croissance organique sur Q3 en France.
OK. Et d'habitude,
j'espère qu'on n'est pas trop optimiste. Hein, mais
D'habitude, tu nous fais un petit point sur le cut de fin juin, comme tu le fais à fin décembre.
On le fait en général au moment de la réunion analyste.
Ouais, mais là,
on ne fait pas au mois de juillet.
Le nombre de départs que tu as eu à fin juin versus ce que tu avais dans tes expectations.
Non, pas complètement. Pas complètement. Mais en tout cas, il n'y aura pas un cut particulièrement sévère cette année. Il sera comme il est habituellement. Voilà. Bon.
Bonne soirée.
Bonsoir, Eric. Alors, pour l'instant, s'il n'y a pas d'autres questions, on a reçu deux autres questions qui sont en anglais. Je vais vous les lire. Could you give us a bit more color on the competitive landscape?
Pourriez-vous nous donner plus de couleur concernant l'environnement compétitif aux États-Unis? Bien, donc je vais répondre à cette question. Le marché américain est très différent du marché européen car les lois locales, les lois changent d'un pays à l'autre. Et donc, Je dirais que notre activité principale, nous chargeons d'un certain nombre de projets entiers pour compte de tiers, pour compte de clients. Et ça n'est pas vraiment le cas aux États-Unis. Aux États-Unis, les entreprises vont peut-être externaliser une partie de leur activité, véhicules, avions ou autres, ou ils embauchent des ressources en mode staffing parce qu'ils ont besoin de ressources supplémentaires pour les projets qu'ils mènent. Donc, il n'y a pas de gros concurrents aux États-Unis, enfin, de notre taille, qui pourrait être similaire à Alten ou un autre de nos concurrents européens. Cependant, il existe de petites entreprises qui tentent de se lancer dans la même activité. Par conséquent, aux États-Unis, quand nous faisons des acquisitions, nous achetons des entreprises plus petites. La concurrence principale des États-Unis provient de ce qu'on appelle les entreprises Indo-US. Autrement dit, il y a un front office local aux États-Unis pour les activités techniques et commerciales, mais les projets, eux, sont réalisés en Inde où le coût des ressources est plus faible. C'est pour cela, bien sûr, que nous essayons de faire face à ce marché en construisant des équipes avec des ingénieurs locaux. Donc, on a ça aux États-Unis, on en a environ 2000 à peu près. Mais nous avons récemment acheté une petite entreprise avec donc cette configuration front office aux États-Unis, back office en Inde. Et on a essayé de développer cette offre qui est plus adaptée au marché américain. Maintenant, vous m'avez demandé également de vous donner un aperçu du contexte donc FUSAC et la compétition donc dans notre cœur de métier. Donc, alors côté fusion acquisition, donc M&A, nous avons moins de concurrents sur ce marché chez Alten. Alors, on peut être en compétition avec de petites entités, mais pas tant que ça. De plus en plus, je dois dire que nous avons pour concurrents des entreprises de private equity qui achètent de petites entreprises de 500 employés avec des multiples élevés, ce qui est très difficile parce que nous ne sommes pas en mesure de payer les multiples qu'ils payent. Je vous en ai déjà touché un mot tout à l'heure. Je parlais d'une entreprise avec une présence donc aux États-Unis, back office en Inde, vendue 17 fois son EBITDA. Et donc, nous avons renoncé parce que nous n'étions pas en mesure, enfin, on ne voulait pas payer un prix aussi élevé pour cette entreprise. Donc, l'environnement fusion-acquisition n'est pas si facile que cela. Et c'est pour cela que nous réalisons principalement de petites acquisitions. Et voilà, je n'ai pas d'autres questions en anglais.
Sont présents au call.
Eh bien, non, on arrive à la fin des questions.
Bon, eh bien, écoutez, il me reste à vous remercier d'avoir participé à cette conférence téléphonique, vous remercier pour vos questions. Je vous souhaite de bonnes vacances, parce que je pense que la plupart d'entre vous allez partir. Et puis, je vous dis à bientôt au mois de septembre, puisque je crois que notre réunion analyste est prévue le 22 septembre au matin. Elle se tiendra cette fois-ci en distanciel, puisqu'on a décidé de faire une réunion digitale, comme on dit, et on aura l'occasion de se reparler à ce moment-là. Voilà, bonnes vacances à tout le monde et donc à bientôt. Au revoir.